Bismillahirrahmanirrahim. Question d'une sœur. Combien de djinns peuvent entrer dans le corps, dans le cadre de la possession? Ça relève du monde de l'invisible. C'est une information qu'Allah Azzawajal n'a pas dévoilée. Donc on n'en sait absolument rien. On a des caractéristiques, on a des éléments dans les hadiths, dans les versets. Par exemple, sur certains versets, on connaît la rapidité des djinns, leur puissance dans certaines choses. Dans certains hadiths, on a leur capacité. On a des bribes d'informations. Mais sur leur anatomie, sur quelque chose comme ça, typiquement, on ne peut pas le savoir. Combien de djinns peuvent intégrer ou quelle forme ils ont. Je sais qu'on lit, un certain nombre de choses sur Internet ou... On a dans les forums, il y en a un qui disait ils ont la taille d'une moitié de fourmi et il y en a autant de... Faites le calcul en gros. Imaginez une fourmi, vous la coupez en deux, un djinn, ça mesure ça. Et c'est pas sérieux. C'est vraiment farfelu. C'est plus Star Wars que de la religion. C'est quelque chose qui est... C'est de la science-fiction. Donc on ne peut pas rentrer dans des explications sérieusement comme ça. Non seulement on ne peut pas avoir l'information, mais en plus, ce n'est pas utile. Ce n'est pas quelque chose qui va apporter à la personne qui est touchée. Pardon. Imaginons qu'on vous dise, il y en a 32, il y en a 12, il y en a 11. Qu'est-ce que ça change dans les faits? Nous, ce qu'on a remarqué dans l'expérience... C'est que dans le cadre de la possession, les shayatines s'évacuent au fur et à mesure du travail spirituel, au fur et à mesure de la guérison. Les shayatines s'évacuent et la libération, entre guillemets, définitive, elle se fait avec la sortie, entre guillemets, du responsable. C'est-à-dire il y a des shayatines qui sont envoyées par le sorcier, par la sorcière, pour servir une cause, pour servir un mal occulte et un objectif de mal occulte. Et généralement, ils ont des tâches assignées, entre guillemets. Ça, on le remarque avec l'expérience, parce qu'on voit qu'au fur et à mesure, par exemple, une personne touchée sur les moyens financiers, par le mal occulte, sur les moyens financiers, sur le mariage, qui va, au fur et à mesure de sa guérison, sentir que au niveau matériel, ça va mieux. Elle a plus de facilité à travailler, elle revient à ses capacités initiales. Donc ça fait partie des choses qui nous prouve avec le temps, avec l'expérience, on peut arriver à des déductions sérieuses et qui sont partagées par beaucoup. Mais c'est du domaine pratique et c'est validé par la personne qui vit ça intérieurement. Mais en dehors, toutes les informations comme celle-là, ni on peut le savoir et ni c'est utile. Et une personne qui commence à vous donner des réponses, je pense que ça discrimine... Ça discrédite la personne et ça prouve que dans son raisonnement, il y a un problème. Dans sa conception du mal occulte et de tout ce qui touche au mal occulte, ça, il y a un problème. Donc c'est une optique à changer et il faut vraiment focaliser sur tout ce qui est pratique. Qu'est-ce qui aide le patient, qu'est-ce qui aide la patiente et qu'est-ce qu'on a dans les sources. C'est vraiment ça. Il y a des éléments que le prophète Sansam a détaillés. Il y a des choses qui sont claires, il y a des hadiths clairs. Et ça n'en fait pas partie, le côté de combien de djinns, comment ils sont, etc. On a malheureusement beaucoup d'éléments. Le prophète Sallam, il a cité ça, par exemple, djinn tayyar. On a un hadith qui en parle, le djinn qui s'envole. On a ça, mais ça correspond à une histoire dans le Coran. Un djinn qui s'envole, c'est-à-dire ça, avec le trône, avec Sulayman, alayhissalam, quand il l'a envoyé chercher le trône de la reine. Mais concrètement, ça ne va pas plus loin que là. Il n'y a pas toute une réflexion à développer, parce que ça touche à l'invisible. On est forcément limité. On n'a aucun élément pour approfondir. Et comme je disais, ce n'est pas utile et ça n'apporte rien. Ça apporte beaucoup plus de soucis que de solutions. Et je pense que c'est un état d'esprit qui n'est pas bon dans ce domaine et qui peut enfoncer la personne beaucoup plus. Et on en a vu beaucoup finir en psychiatrie comme ça, de commencer à réfléchir sur les Illuminati, les individus reptiliens qui ont des choses bizarres dans leurs yeux. Et j'en ai vu malheureusement des sœurs qui étaient parfaitement normales et qui ont glissé petit à petit, qui ont fini en psychiatrie avec des médicaments. Je pense à une sœur en particulier, Shafa'a Allah, vraiment, que si vous avez l'occasion de faire des doigts pour elle, qu'Allah la préserve, Inch'Allah, il la guérisse. Elle était installée à Londres. Et comme matériellement elle a réussi, elle a été très très jalousée par rapport à sa réussite. Et elle venait de temps en temps faire des allers-retours à Paris et ils lui ont fait de la sorcellerie. Et petit à petit, elle a commencé à se noyer dans les forums et à passer son temps à faire des recherches sur ça. Ensuite, elle a commencé à rentrer dans les Bilderberg, reptiliens, conquête du monde, les enquêtes sous terre, etc. Elle a commencé à... Vraiment, partout, elle a commencé à voir partout des complots, des trucs, des... Mais vraiment, ça n'avait pas de cohérence. Et j'ai essayé de la rappeler petit à petit, subhanallah, ça fait... J'ai beaucoup, beaucoup de peine pour elle, vraiment, Shafa'a Allah, parce que j'ai vu l'évolution, malheureusement, comment elle s'est enfoncée. Et donc, elle a fini un jour, sa mère nous a contactés, nous a dit... son père, pardon, qui nous a contactés, qui nous a dit... je peux plus le... elle commence à ouvrir les fenêtres et j'ai peur qu'elle fasse une bêtise, qu'elle saute par la fenêtre ou... Parce qu'elle ouvrait la porte le soir, elle sortait la nuit, mais dans un état second. Et petit à petit, ils ont fini par comme ils avaient peur pour elle, ils l'ont internée en psychiatrie. Pour eux, c'était temporaire. Et au final, elle s'est enfoncée encore plus. Et aujourd'hui, subhanallah, je l'ai revue quelques mois après. C'était une sœur petite de taille, toute fine. Mais ce qu'elle a avec les chafards là, vraiment, avec les médicaments, elle a gonflé complètement, elle a pris vraiment une vingtaine de kilos. Elle est complètement différente, complètement mutique, en fait, elle ne parle plus, elle ne s'exprime plus. Elle était très aisée en français, en anglais, elle avait une réflexion, etc. Je ne sais plus dans quel domaine elle travaillait, mais on n'a plus de nouvelles depuis, je ne sais plus du tout je ne sais pas aujourd'hui où on en est, parce que ça date de quelques années. Mais c'est un risque. Et vraiment, choisir son optique pour être vraiment calibré sur les textes et sur la révélation, c'est vraiment salvateur. Sans ça, c'est très difficile de cheminer dans l'occulte. Parce qu'on n'a pas de référence. Et quand on ouvre ces portes-là, ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça signifie que ça, ça signifie que les djinns sont comme ça. Donc, s'il y en a 500 000 en moins, ces 500 000 là, ils ont un pouvoir qu'ils n'ont pas quand ils sont tout seuls. Donc si ils sont 500 000, c'est qu'ils peuvent faire ça, c'est que je décide plus. Et petit à petit, comme ça, on s'enfonce et... Shafa'a Allah ul-mu'minin, inshallah.